Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri.
Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
La fin de la grève des enseignants et donc la reprise des cours, la suite des inondations qui ont fait plus d'une dizaine de morts à Bamako, et également le bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali ainsi que la situation sécuritaire. Voici quelques-uns des principaux sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine au Mali et nous les abordons au cours de ce forum de la presse. Merci aux journalistes qui ont accepté notre invitation, qui sont au nombre de 3 personnes aujourd'hui. Amadou Diallo, journaliste indépendant, Yoro Sow de l'Inter de Bamako et Boubacar Paytao du journal Aujourd'hui. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse.
Le Grand Dialogue.
Alors, le premier sujet qui sera abordé au cours de ce forum de la presse sera bien sûr la fin de la grève des enseignants. Les cours ont repris cette semaine. Nous allons d'abord écouter ce reportage de Hamadoun Maïga sur la question.
Pour certains enseignants membres de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016, il est impossible d'épuiser tout le programme durant le reste de l'année scolaire. Cependant, ils estiment que si l'année scolaire est prolongée de quelques mois, les élèves peuvent être évalués. Ousmane Almoudou, secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités.
Il serait difficile aujourd'hui de dire qu'on est rentré et il faut aller aux examens. Non. Forcément, il faut jouer sur le temps. Jouer sur le temps, ça veut dire qu'il faut décaler les dates des examens. Jouer sur le temps, ça veut dire qu'il faut prolonger un peu la durée de l'année scolaire. Vous savez, ça serait très compliqué.
Cette année scolaire ne peut plus être sauvée pédagogiquement. Ils ne vont faire que du bricolage, expliquent certains observateurs. Pour Mohamed Ag Acharom, la prorogation de l'année scolaire en cette période hivernale n'est pas sans risque.
La région des Ticato, déjà les pluies ont commencé, les gens sont déjà au champ. Et au fur et à mesure, les pluies vont prendre les récipients. Dès la différence que les élèves vont aller dans les champs et travailler, il y a le fait que les écoles ne seront plus accessibles. Ici, à Bamako, les écoles vont se transformer en marigots, sans compter qu'il y a les inondations qui vont créer des sinistrés, et ces sinistrés sont généralement accueillis par les écoles. Comment est-ce qu'ils vont jongler dans tout ça?
Prorogation ou pas, les autorités scolaires tentent de prendre une position officielle sur la question. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont commencé les pourparlers depuis ce lundi sur le sujet.
Yoroso, la grève a pris fin. Aujourd'hui, on échange sur comment sauver l'année scolaire. Quelle est votre analyse sur cette question?
Merci. L'accord qui a été signé entre le gouvernement et les syndicats était un ouf de soulagement pour l'ensemble du peuple malien. Et précisément pour les autorités maliennes et les syndicats, dont aucune des parties ne voulait endosser la responsabilité d'une année blanche. Et au-delà de ça, ce qui est à condamner depuis que la grève a commencé, le gouvernement s'est mis dans une logique de radicalisme, de mépris et d'intoxication à travers des campagnes médiatiques et des tournées de certains ministres à l'intérieur du pays. Ce qui a beaucoup joué sur les négociations, au lieu de faire face aux problèmes, voilà, le gouvernement s'est donné à ses actions, ce qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup négocier. Et le gouvernement, à la dernière minute, a accepté cet accord pour sauver, dit-on, l'année. On ne peut pas aujourd'hui sauver l'année. Parce que depuis novembre, décembre jusqu'à maintenant, pratiquement, quand vous faites le cumul, peut-être qu'on n'a fait que 2 mois de cours. Le problème se pose au niveau des classes d'examen, les classes 9e et le DF et le BAC. Le problème se situe à ce niveau. Comme depuis 1991 jusqu'à nos jours, on nous a habitués au colmatage des années. Sûrement qu'ils ont des moyens pour sauver l'année. Il reste juin. On peut aller au-delà. À partir de juin, on peut fermer les écoles. Comme dans votre reportage, certains ont eu à le dire, l'hivernage commence à s'installer. Voilà, les écoles, les élèves seront coupés des écoles par les cours d'eau. Maintenant, on peut travailler jusqu'à fin juillet et travailler en octobre et en novembre. programmé les examens peut-être pour le bac. Mais le DEF, on peut faire le DEF en juillet. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça va handicaper nos étudiants qui ne vont plus s'inscrire au niveau des universités, surtout qu'on organise chaque année une cérémonie de bons élèves où les meilleurs sont sélectionnés, qui partent étudier dans les écoles à l'extérieur. En tout cas, ça va quand même jouer beaucoup sur ça.
D'accord. Voilà. Amadou Diallo, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on pouvait éviter cette situation puisque l'État disait qu'il n'avait pas les moyens de satisfaire les revendications des enseignants et tout d'un coup, il y a 9 des 10 revendications qui sont satisfaites. Pourquoi attendre tout ce temps?
Merci. Je profite de l'occasion pour saluer ce retour à la calmie dans l'espace scolaire et surtout le bon sens au niveau de l'espace scolaire. Moi, j'ai dit, d'abord, je commence par dire que moi, je suis farouchement contre la grève, sous quelque forme que ce soit, en tout cas en Afrique. Là où nous sommes dans des pays extrêmement pauvres, dont l'avenir même est incertain, en tout cas pour beaucoup de citoyens. Alors, on ne peut pas se souffrir le luxe et d'aller comme ça, à tous azimuts, à des grèves. Et moi, pour ça, je suis franchement
même contre. Même si les droits sont violés.
Non, les droits ne sont pas violés. Les droits sont peut-être souvent. Il faut regarder aussi. Les droits appellent aussi au devoir. Mmh. Voilà. Donc, moi, je suis très relatif par rapport à cette question. Maintenant, on a pu sauver juste la face. Mais est-ce que.
Est-ce que vous pensez que les revendications des enseignants là étaient.
Les revendications, même si elles sont légitimes, elles doivent être mises dans des contextes. Il faut toujours contextualiser les choses. Moi, ça dit que quand moi je suis philosophe de formation, vous savez, faisant des parallèles par rapport aux droits, aux revendications des droits, c'est-à-dire que la grève qui est partie des États-Unis, où, ça c'est des pays des privés. Ici, on est c'est l'État. C'est-à-dire que l'école, c'est l'école publique. L'école publique, c'est aussi en même temps l'enseignant, parce qu'il fait partie du public. Son enfant est au public. Lui-même, il est du public. Donc, il faut relativiser les choses et mettre les choses dans un contexte tel que on peut régler à l'amiable avec beaucoup d'intelligence. Maintenant, les bras, tendre les bras, c'est-à-dire que le bras tendu entre la tension entre les deux parties, c'est du gâchis. Et l'enfant, qui est l'autorité, et l'enseignant, lequel des deux a pensé à l'enfant? Le petit qui souffre, qui n'a rien fait pour mériter ça. Personne. Personne ne pense aux enfants. Mes conditions de vie, mes conditions de travail et l'enfant lui-même. Qu'est-ce qui va bénéficier de tout ça? Vous voyez, des années, des mois et des mois de non-études. Qu'est-ce que ces enfants demain vont devenir? Dans un monde de compétition. Ça veut dire que ces enfants sont fort clos. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Il faudrait que chaque fois, moi j'en appelle aux enseignants, chaque fois qu'on veut aller en grève, il faut penser d'abord à son propre enfant. Même si on te donne tout l'argent du monde, si encore à 80 ans, à 70 ans, tu continues à nourrir ta famille parce que tes enfants n'ont pas eu la chance de bénéficier des conditions, meilleures conditions d'études. Et à quoi ça sert toutes ces bonnes conditions-là?
D'accord. Voilà. Êtes-vous contre la grève aussi?
Bon, je ne peux pas dire que je suis contre la grève, mais je comprends la position de Diallo, parce que certainement de sa position, il peut être contre les grèves, sinon les grèves, ça fait partie des droits conférés par la Constitution. Maintenant, être contre les grèves, bon, moi, je ne sais pas, à moins qu'on ne soit plus dans la démocratie. Voilà, donc moi, à chaque fois qu'on a toujours vu, les syndicalistes ont tout le temps dit que la grève, c'est généralement, c'est-à-dire que la dernière arme, parce que les syndicalistes, généralement, passent par plusieurs moyens, les négociations, les contacts, les rencontres, les échanges, etc., etc.,
tout ce que vous connaissez. Cas pour les enseignants.
Oui, mais c'est ça, mais malheureusement, on est dans un état. Il faut le dire, ça fait mal, il faut le dire, où on n'engage jamais, c'est-à-dire qu'on n'honore jamais à ses engagements. c'est déplorable, mais il faut le dire. C'est comme ça. Maintenant, l'État, c'est un peu le caractéristique de nos États, c'est-à-dire qu'ils ne respectent jamais leur engagement. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, on lutte pour avoir des droits et on lutte également pour l'application de ces droits. Donc, on est dans quel pays ? Donc, c'est un peu le c'est-à-dire que l'environnement qui pousse les uns et les autres à aller directement en grève. Sinon, moi, je pense que s'il y a des pourparlers à l'issue desquels on peut avoir des accords et qui nous permettent d'avancer sans passer par les grèves, je crois que les gens, personne n'a envie de perdre une année comme cela. Voilà. Maintenant, moi, je ne peux pas être, je suis légaliste, je ne peux pas être contre les grèves. Les grèves, ça fait partie des droits, c'est-à-dire des citoyens. Voilà, donc vraiment, moi, je ne veux pas être contre les grèves.
D'accord. Pensez-vous que cette année, avec tout ce temps perdu, méritait d'être sauvée ? Fallait-il pas aller vers une année blanche ?
Comme l'ont dit certains, ce n'est pas pour sauver en fait, l'année, c'est pour bricoler une année, comme a dit Diallo, sauver la face. Ce qui est déplorable dans tout ça, c'est qu'on a perdu trop de temps. Le gouvernement s'est retranché dans une position, vraiment c'était trop compliqué parce qu'on ne peut pas dans une négociation comme cela. Maintenant, la réalité, c'est que le gouvernement n'avait jamais envisagé qu'un mouvement au niveau fondamental et secondaire allait atteindre une telle ampleur. Mais sans oublier que c'est presque la totalité des syndicats qui font partie de la synergie. Maintenant, c'est-à-dire que les autres années, il y a des syndicats qui vont à 3 mois de grève. On ne le sent pas parce que les autres sont en train de travailler. Mais sauf que cette fois-ci, c'est tous les syndicats qui sont allés en grève à travers la synergie. Maintenant, le gouvernement, dès le départ, c'est-à-dire que pouvait au moins nous éviter cette situation, c'est-à-dire qu'en faisant des propositions, c'est-à-dire des propositions convaincantes. Mais si le gouvernement s'en tient à une position, il n'y a pas d'argent, bon, d'accord, il n'y a pas d'argent, nous connaissons tous la situation du pays, mais ça ne change en rien, c'est-à-dire qu'au terrain de vie de l'État. Ça aussi, c'est en fait ça le problème. C'est-à-dire que pour dire aux autres, voilà, il n'y a pas d'argent, maintenant, il faut montrer l'exemple à travers les dépenses publiques, à travers le train de vie de l'État. Si l'État donnait, c'est-à-dire que les ministres, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire le Président,
donc,
je ne sais pas.
Donc, vous pensez qu'une année blanche était mieux ?
Bon, l'année blanche, mieux, bon, pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les conséquences d'une année blanche sont également désastreuses, parce qu'il y a eu des investissements qui ont déjà été faits et qui ne seront pas retournés. Voilà, donc pour les écoles privées qui ont à plus de 80% d'exécution du programme, elles ont fait des investissements. L'État, de son côté, a fait des investissements, même si la progression des cours ne dépasse pas les 30%, mais on a consommé presque 90% du temps. Je crois qu'on peut régler tout ça. On peut prolonger l'année. D'accord, ça dit que on parle de l'hivernage, de problèmes d'accès à certaines localités. Bon, moi, je pense que c'est des sacrifices. C'est à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et chacun d'entre nous doit consentir au moins des sacrifices pour dépasser ce cap-là.
D'accord. M. Diallo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une solution pour réellement sauver l'année scolaire ?
Bon, ça dit que, comme je l'ai dit, je me répète, hein, ça dit que on va vers un sauvetage, une accommodation. On s'accommode avec la situation, mais on ne peut pas sauver. Ça dit que les mois perdus.
Donc, est-ce qu'une année blanche serait mieux pour donner le temps également à tous les acteurs de s'asseoir, réfléchir, pour même relever le niveau de.
Vous savez, en 93-94, il y a eu année blanche au Mali. C'était à l'époque, c'était les étudiants, les élèves étudiants, l'AEM, qui avait amené, qui avait tendu la lutte au point que finalement le gouvernement était obligé de surseoir à l'année scolaire. Ça a créé plus de dégâts. En 81, je crois, ou bien 79-80, Moussa Traoré aussi a consenti une année blanche. Dans tous les cas de figure, il y a plus de dégâts que d'avantages.
Maintenant, connaissant avec toutes ces expériences, on ne veut pas aller à ça. Maintenant, moi, j'ai dit tout simplement, je reviens, je ne suis pas contre la légalité, je ne suis pas anti-légaliste, je ne suis pas non-légaliste, contrairement à ce que Poeto pense. Je suis légaliste. Mais j'ai dit, compte tenu de nos pays, la faiblesse de nos pays, on doit faire économie de certaines situations. Vous savez, un pays où même manger, c'est un problème. Manger par endroit, c'est un problème. Moi, je pense qu'on doit se concentrer sur d'abord comment tenir notre État d'abord, dans le rang de concert, dans le concert des nations, pour qu'on tienne. Maintenant.
Mais cela n'est pas dû à une mauvaise gouvernance.
Mais la mauvaise gouvernance, on est tous comptables. On est tous comptables de cette mauvaise gouvernance. Ce qu'il a dit, l'État n'a pas changé son terrain de vie. Mais il y a des organes de contrôle à la Cour suprême. Il y a un organe de contrôle de l'État là-bas. Il y a la section des comptes de l'État. Chaque année, l'État doit produire des rapports.
Mais il y a le bureau du vérificateur général.
D'abord, à la Constitution, ça c'est constitutionnel. La Cour suprême est constitutionnelle. Dans la Cour suprême, il y a la section des comptes. À l'Assemblée, il y a la commission de contrôle qui est toujours présidée par un opposant. Mais que tout le monde travaille. Que tout le monde travaille. La mauvaise gouvernance, c'est parce que nous sommes tous coupables de cette mauvaise gouvernance. Chacun de nous profite quelque part de cette mauvaise gouvernance. C'est bien de parler des autres, mais regardons nous-mêmes dans le miroir. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la mauvaise gouvernance? Nous-mêmes, étant entendu que nous-mêmes, nous contribuons à ça. Vous savez, c'est très facile de dire que l'autre, mais regarde soi-même. C'est important. Moi, je prends l'exemple sur le Burkina. Les anciens Maliens se comparent leur salaire au salaire burkinabé. Mais au Burkina, on a pris des gens au bac en fraude. Le gouvernement a décidé que l'élève pris en fraude fera 5 ans sans se présenter au bac, sanction. L'enseignant qui a été à l'origine, l'enseignant a été sanctionné. Mais le syndicat des anciens a dit que la sanction proposée par le gouvernement est encore faible. Moi, j'appelle ça des syndicats responsables. Et regarde, au Mali, on fait passer les élèves avec 3 de moyenne. Et qu'est-ce que les anciens disent? Non, c'est le directeur qui veut ça, c'est le directeur de CAP, c'est le directeur de CAP, c'est le ministre. Mais si les syndicats disent non, on ne peut pas faire ça, c'est contre la pédagogie, est-ce qu'on ne va pas arrêter ça? Mais voilà des questions fondamentales qui me préoccupent, moi. Que des questions pécuniaires. Parce que regardez, depuis 1991, chaque année, il y a de nouvelles revendications. Quel gouvernement au monde peut satisfaire à ça? Chaque année. Ce n'est pas possible. Soyons réalistes et regardons les choses en face. Si le gouvernement gère mal, prenons le temps de dire ça et de montrer les mécanismes par lesquels on peut empêcher ça. Que de dire seulement non, le gouvernement fait ça. Donc si c'est reproduire les mêmes bêtises, à quoi ça sert d'aller à l'école?
D'accord. Comment éviter maintenant ce type de situation, Yoroso?
Pour éviter ce type de situation, il faut que le gouvernement respecte ses engagements. La grève qui vient de prendre fin est une grève dont, je crois, 8 points de revendication sont des anciennes revendications. Le gouvernement n'a jamais tenu à respecter ses engagements. Je crois que depuis 2 ans ou 3 ans, ces revendications dormaient dans les tiroirs et les syndicats les ont fait sortir. Tout dépend du respect. Même cet accord, il faut que le gouvernement s'engage à respecter. Parce que les enseignants et les syndicats ont fait un sacrifice en acceptant l'application de l'indemnité de résidence en 2020, janvier 2020, ça commence. Donc ça, c'est un sacrifice. Il faut que le gouvernement quand même accepte de respecter l'engagement qu'il a signé avec les anciens. Tout dépend du respect de l'engagement. Si demain ou bien à la rentrée, les engagements ne sont pas respectés, c'est sûr que les revendications seront sur la table du ministre.
D'accord. Deuxième sujet de ce forum de la presse, la suite des inondations. Il y a eu 15 morts puisque la protection civile dit ne pas avoir des informations par rapport à la 16e mort annoncée. Et donc nous allons écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a réagi sur la question.
Il est temps que le civisme reprenne ses droits. Il est temps, il est grand temps que la discipline républicaine revienne. Cela peut produire, cela peut sauver des vies. Tous ces enfants qui sont morts, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont morts, il y a une grande part de responsabilité humaine. Nous sommes tous coupables. Nous d'avoir dit, mais de n'avoir pas sanctionné. Mais nous ne nous contenterons plus de dire. Nous rappellerons encore aux édiles municipaux leur devoir. Il faut que l'on pense à la vie, à sauver la vie des gens dans ce pays, de plus en plus, de mieux en mieux. Nous devons, dès maintenant, prendre des mesures idoines, de prévention, d'anticipation, pour protéger les vies des hommes et des femmes, et même celles des bêtes, et notre environnement. Nos biens, des vies consacrées à réunir un minimum, ont été saccagés. En deux vagues, les gens ont perdu tous leurs biens, sont totalement démunis. Tout geste qu'on peut faire est dérisoire. Juste qu'on souhaite un peu penser légèrement les plaies. Mais l'effort vigoureux devra venir par des décisions vigoureuses du gouvernement en matière urbanistique, en matière environnementale. Je pars d'ici très ému, certainement, mais plus déterminé que jamais à engager l'État à assumer ses responsabilités, à engager les édiles municipaux à être de la partie, à ne plus penser que tout doit revenir à l'État. Quand les lieux où ils ont été élus pour gérer les cités, ils gèrent les cités au mieux des intérêts des populations, en les préservant, en pensant à elles, ces populations-là, à leur vie, et non pas à l'argent.
Peut-on s'attendre, Boubacar Paye-Tao, à des décisions vigoureuses, des mesures vigoureuses, comme l'annonce le président de la République?
Bon, avant d'aborder ce volet, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il faut aller au-delà des discours. Parce que je me rappelle, c'est juste en 2013, juste après son investiture, je crois que on a connu cette situation. Et bon, c'est les mêmes discours, hein, mais de 2013 à maintenant, presque rien n'a changé. Et moi, je connais des familles qui ont été victimes en 2013, qui ont perdu des siens en 2013, et que cette fois-ci également, ils ont été victimes, ils ont perdu des siens. Ça veut dire qu'en fait, rien n'a changé. Bon, moi, je pense qu'il faut aller au-delà, parce que c'est comme l'a dit le président, c'est-à-dire que ça relève uniquement de la responsabilité humaine. Responsabilité humaine, parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays qui aspire à être émergent, plus tard à être un pays développé, on continue à construire dans le nid des cours d'eau. Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire qu'on ne respecte aucune norme d'urbanisation. Et c'est-à-dire qu'on construit anarchiquement. Regarde un peu, c'est-à-dire qu'à Bankoni, en 2013, ils ont été frappés par le même phénomène. Et trois ans après, les gens ont construit, c'est-à-dire qu'au même endroit. Et je crois
justement,
cette fois-ci,
est-ce que les populations n'ont pas leur part de responsabilité?
Non, oui, mais non. C'est-à-dire que l'État a ce rôle, c'est-à-dire de réguler les choses. Parce que l'État, c'est ça. C'est-à-dire qu'en principe, normalement, c'est les citoyens qui doivent avoir peur de l'État, parce que l'État a ce rôle régalien de redistribuer les droits des uns et des autres, de garantir le droit des citoyens. Mais ce qui est déplorable chez nous, c'est que c'est l'État qui a peur des citoyens. Mais si l'État a peur des citoyens, on voit généralement des situations de ce genre. On ne peut pas toucher à X parce que c'est le protégé du Y, ou encore c'est parce que c'est X. On ne peut pas le toucher parce que c'est X. Ce n'est pas normal dans un pays. Maintenant, que ça soit très clair, qu'on respecte les normes d'urbanisation. Maintenant, les populations n'ont pas le choix. Si l'État s'assume, on ne construit pas à telle distance d'un cours d'eau, mais quelqu'un qui construit, maintenant l'État est là pour s'assumer, et voilà, et la sanction tombe. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. On est chaque fois vraiment de compter des morts. Voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à la situation.
D'accord, Yoroso, êtes-vous optimiste par rapport à la suivi de ce discours du président Ibrahim Boubacar Keïta par des actes concrets?
Oh non, pas optimiste, d'autant plus que 2013 est là, il a tapé du poing sur la table pour dire que des responsables seront sanctionnés et que les enquêtes seront mises en cours. Malheureusement, aucune enquête n'a abouti et personne n'a été sanctionné. Moi, je pensais que samedi, le président allait être accompagné de bulldozers pour commencer à démolir ce qu'ils ont construit dans les lits du fleuve. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est parti voilà, il a prononcé un discours où on ne sent pas de sanctions là-dedans. Donc les gens vont continuer à construire. Je ne suis pas tellement loin des zones qui ont été inondées parce que je peux dire que je suis une des victimes collatérales parce que ma famille a été mobilisée pour aider les parents qui sont à, qui sont pas dans les lits du fleuve, qui sont à peut-être à 50, 100 mètres de la rivière qui sont touchés. On ne peut pas comprendre des gens qui sont à 50 et à 100 mètres du cours qui est, ces familles soient touchées. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on a construit dans les lits du fleuve et on a pris la trajectoire de l'eau. Ce qui fait que l'eau n'a plus de passage. Et l'eau est, si l'eau est coincée, elle est obligée de sortir. Donc, quand l'eau est sortie, donc elle a envahi toutes les familles qui étaient aux alentours de la rivière. Je suis au niveau du pont tordu, je ne suis pas tellement loin, mais ça a été un désastre. Les animaux sont partis, on voyait les véhicules, tout, les gens ont tout perdu. Et un président de la République, au lieu de venir avec des propositions concrètes pour dire qu'aujourd'hui, moi-même je suis là, arrêter les bulldozers, commencer le travail. En ce moment, il allait être applaudi. Et voilà, les gens ont tout perdu. Et dans son discours, il n'y a même pas de compassion. Parce que comment on pourra rembourser ces gens? Ils ont tout perdu. Tout. Il y a des gens, il y a une famille, dans une famille où quelqu'un, il avait 1 million, l'eau est partie avec son argent. Ouais. Moi, je pense qu'il est temps que le schéma directeur de Bamako soit appliqué. Bamako a un schéma directeur. Et je vous rappelle, il y a un certain Batili qui a travaillé au niveau de la voirie. Et c'est eux qui sont... La voie qui passe là, l'échangeur qui passe au niveau du Bamema, c'est eux qui ont fait ce schéma directeur jusqu'à Sikroni. Il y a un schéma directeur que le colonisateur a eu à faire, un schéma directeur que les Maliens ont eu à faire. Il est temps de les s'appliquer pour le bonheur de la population. Et les lits du fleuve Djoliba, les rivières, tout est occupé au vu et au sud de tout le monde. Alors qu'au niveau de l'urbanisme, il y a des arrêtés qui sont là, ou en tout cas des textes qui sont là pour dire que, je crois, pour un fleuve, ça doit, les habitations doivent être à 25 mètres du fleuve. Je ne connais pas pour les rivières, ça doit être les mêmes. C'est quand même pour parer à de telles situations.
D'accord. Voilà. Nous sommes tous responsables, dit le président de la République, qui parle d'incivisme, qui parle de manque de mesures concrètes. Alors, peut-on s'attendre à des sanctions cette fois-ci?
Non, on ne peut pas, parce que le président tel qu'il a parlé, il n'a pas laissé entendre d'éventuelles sanctions et puis d'éventuelles mesures. Il a juste rappelé qu'en 2013, ils ont dit, bon, ils n'ont pas certainement suivi, il a reconnu quand même une insuffisance. Maintenant, moi, je pense que, vous savez, les maires, dans les communes dans lesquelles ces événements-là se sont produits, les maires de l'époque. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'eux pensent de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Est-ce qu'ils se sont, ils ont été même émus une seconde de cette situation? La commune 5, la commune 5, à l'époque, ça dit que tout ça là, c'est parti de 2004. En 2004, l'année de levée de suspension. À 2012, Pont Tordu, et Misabougou, et Bangoni, tout ça là, c'est de 2004 à 2012, année de levée, parce que sous Alpha avait pris conscience qu'il y a danger, il avait suspendu l'attribution de terres. Mais 2004, pour faire plaisir au maire, a été à lever la suspension. Et c'est parti. La spéculation dans tous les sens. On a transformé, c'est en ce moment qu'on a vu des marigots entiers transformés en maisons d'habitation. Maintenant, les gens disent que la population... Non, vous savez, la stratégie, c'est quoi? Quand un maire fait son plan de lotissement, ils attribuent les notifications aux bénéficiaires. Pour voir ton terrain, il faut tout payer pour pouvoir voir ton terrain. C'est après avoir tout payé qu'on va te montrer les lits du marigot. Qu'est-ce que le bénéficiaire va faire? On le met devant un dilemme. Il est obligé de prendre le risque parce qu'il a déjà pris des risques. Vous voyez,
c'est aux maires de répondre de ce qui s'est passé. Les maires de Bamako, c'est-à-dire que du maire du district au maire de la commune, au gouverneur, notamment, c'est l'époque du gouverneur Féfé Koné. C'est à eux d'assumer cette responsabilité. Il faut que les gens leur disent qu'ils ont fait, par leurs actes, des Maliens sont morts et à eux de réparer. Franchement, il faut aller vers ça. Le président, peut-être que, comme c'est un homme politique, il ne peut pas heurter ses alliés politiques, mais ce sont eux. Ils sont responsables de ce qui est arrivé. Et ils doivent répondre. Qu'ils répondent devant la justice, en tout cas, ils vont répondre devant le tribunal de l'histoire. Parce que c'est des morts.
La mairie de Bamako annonce un projet de curage des caniveaux.
Ce n'est pas les caniveaux, c'est des marigots. C'est des marigots qui ont été occupés. Et c'est là où le dégât est arrivé. Les gens font la confusion. Hein. C'est une stratégie de détournement d'attention. Ce n'est pas les caniveaux, c'est les cours d'eau. Dans le code domanial, c'est très clair, les cours d'eau sont des espaces publics, c'est le domaine public. Donc, pour l'aménager, il faut 25 à 30 mètres. À partir du lit majeur, le lit majeur, c'est jusqu'à quand l'eau monte, la dernière limite qu'elle ne dépasse, c'est ça le lit majeur. Les gens peut-être ne peuvent pas comprendre. Il y a le lit mineur, c'est à l'intérieur, mais le lit majeur, c'est à l'extérieur. C'est la dernière limite de l'eau. C'est de là-bas qu'on commence à mesurer jusqu'à 25 mètres. Allez-y, là, le grand collecteur qui passe devant la Sémane de Faladier. C'est exactement ça.
D'accord. Voilà. Alors, Paytao, si l'État n'assume pas ses responsabilités, si des mesures concrètes ne sont pas prises, qu'est-ce que la population, elle, peut faire pour que ces inondations puissent être évitées?
Bon, la population, je ne crois pas, parce que, en fait, comme a dit Diallo, souvent, on met les citoyens lambda devant les faits accomplis. Donc chacun a envie de se trouver, c'est-à-dire qu'un toit, là où loger. Voilà. Donc moi, je ne mets
mais
pas
c'est
ça.
Mais s'il se mobiliser pour demander que des actes concrets soient.
C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, mettre les jeux et les cailloux ensemble. C'est-à-dire que c'est l'État, ça c'est le rôle régalien de l'État. C'est-à-dire que de faire appliquer les textes, c'est-à-dire que, qu'on a voté et qu'on a élaboré. Moi, je pense qu'il ne revient pas vraiment aux citoyens, c'est-à-dire que de faire cela. Parce que si. Donc, c'est pour dire que nous, on confie le pays à des personnes, et c'est nous-mêmes qui sommes obligés de leur dicter ce qu'on doit faire. Mais moi, je ne pense pas. Si c'est la bonne formule. La bonne formule, c'est que aujourd'hui, que ce soit l'État, au niveau de l'État, au niveau des citoyens, chacun est conscient du danger et chacun est conscient de la situation. Maintenant, à ce titre, c'est l'État qui doit s'assumer. C'est-à-dire qu'en appliquant juste, c'est-à-dire que les normes d'urbanisation. C'est très clair, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on ne doit pas construire à tel endroit. Quelqu'un qui construit à tel endroit, maintenant, on casse. Non seulement on casse, c'est-à-dire que le document qui t'a permis de construire, qui l'a délivré, on sanctionne la personne. Et ce n'est pas les citoyens qui peuvent faire ça. Parce que si les citoyens, c'est-à-dire que si c'est la population qui doit faire ça, c'est-à-dire que ça s'appelle ce qu'on appelle l'anarchie. Maintenant, alors que l'anarchie, ça n'arrange personne, ça devient maintenant des questions de règlement de compte. Maintenant, alors que l'État, voici ce qu'on doit faire, et celui qui ne fait pas ça, la sanction est là. On applique la sanction. Et c'est clair.
D'accord. Voilà. Parlons du processus de paix. 4 ans que l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Nous allons écouter d'abord Ataï Ag Mohamed, membre de la coordination des mouvements armés CMA, qui était un des invités de notre grand dialogue du lundi dernier.
Chaque gouvernement qui vient, c'est comme si c'était un régime nouveau qui s'installe. On a du mal à créer la continuité gouvernementale. Ça fait qu'on reprend des choses, au lieu de continuer tout directement, on reprend des discussions qui avaient été abordées, donc un petit recul. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut. Il y a les ressources aussi qui manquent. Souvent, c'est des questions qui sont. Il n'y a pas de ressources pour les appliquer, il faut des ressources. Il y a la volonté politique, bon, elle est abstraite, la volonté politique. Mais quelque part, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger sans un courage politique. Par exemple, la question de la révision constitutionnelle, c'est une question où il faut faire comprendre l'opinion publique. L'esprit, d'abord, n'est pas donner l'impression que c'est l'accord qui l'exige, mais il faut aussi être dans les besoins qu'il faut d'une refondation complète du système démocratique au Mali. Donc, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas touchées. La zone de développement, qui est un élément aussi phare, qui est une question. Donc, jusqu'ici, je pense qu'il y a des questions de fond qui vient d'être abordée, mais on a du mal à être dans les textes de ces questions-là, dans les lettres et aussi dans le courage politique adéquat pour les affronter. Et nous espérons qu'avec la nouvelle dynamique du gouvernement en place, qui a essayé aussi d'intégrer des mouvances politiques qui contestaient beaucoup de choses dans la mise en œuvre, nous espérons que le débat à l'intérieur du gouvernement va pouvoir donner une dynamique pour qu'on passe maintenant aux véritables tâches qui sont la concrétisation de l'accord pour la paix.
Voilà, le Centre Carter estime qu'après 4 ans, seulement 25% du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation ont été mis en œuvre au Mali. Alors, le membre du CMA, Ataï Ag Mohamed, estime que parmi les raisons du retard, il y a le manque de courage politique, le manque de ressources et la non-continuité de l'État au Mali. Estimez-vous, Amadou Diallo, que ces raisons sont valables?
Bon, vous savez, ce n'est pas ce monsieur-là qui parle, qui soit les raisons du blocage. Le blocage, moi, je vois un seul pays qui ne veut pas qu'on avance, et ça, c'est la France. C'est-à-dire qu'on est en train d'appliquer au Mali la technique de la ruse. Je donne un exemple concret. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire d'outre-mer en France, mais qui était une colonie. Dans les années 80, les Calédoniens se sont révoltés pour réclamer leur indépendance. La crise a atteint son paroxysme lorsque les Kanaks ont pris la capitale en otage et en tuant des gendarmes français. Pour lever le siège, le gouvernement français à l'époque, dirigé par François Hollande et Mitterrand, a négocié un accord qui prévoyait un référendum. Mais de 89... Depuis 1989, le référendum n'a pu se tenir qu'en 2008, et avec un non à la sortie. Et pendant ce temps, pendant que les Kanaks négociaient l'accord, ils ne se doutaient pas du tout qu'il y avait un plan d'assassinat qui était prévu, notamment l'assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. Depuis sa mort, les choses sont retombées en l'état. Et quand les Français ont compris qu'en allant au référendum en 2008, c'est sûr que le non va emporter, ils ont organisé le référendum. Et heureusement et malheureusement pour les Kanaks, le non a emporté. C'est même bien vrai que l'accord prévoit un deuxième tour, un deuxième round de référendum, mais ce n'est pas sûr que ça peut encore aboutir. C'est la même technique qu'on applique au Mali. C'est-à-dire que les Français ont décidé de couper la partie septentrionale du Mali du reste du pays. C'est pourquoi ils ont délocalisé la ligne de front de Kédal à Ménaka vers les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro, pour maintenir dans cette partie-là dans l'instabilité totale. Nous faire oublier Kédal, la région, les trois régions, ou bien maintenant les cinq régions du septentrion, et maintenant, voilà, c'est tout. Sinon, l'accord a été signé et très clairement dit que les groupes armés vont se cantonner et commencer les désarmements. Qui refuse le désarmement? C'est le MNLA. Qui soutient le MNLA? C'est la France. Ça veut dire que c'est la France qui ne veut pas qu'on aille à la paix. Et c'est tellement transparent. Mais on fait toujours fi de ne pas voir. Les autorités ne peuvent pas voir parce qu'elles sont dans une situation. Mais nous, citoyens, là, c'est à nous de voir, de bien voir et de dénoncer avec la manière. C'est la France qui ne veut pas qu'on avance.
D'accord. Yoroso, estimez-vous aussi que c'est la France qui ne veut pas qu'on avance?
Oui. Bon, la France est au début et à la fin. La France, est elle qui a instrumentalisé, qui a créé, pardon, les MNLA et qui a semé tous ces désordres dans notre pays depuis 2012. Et vous parlez de bilan il y a 4 ans de cela. Il ne peut pas y avoir de bilan parce que l'accord a été signé contre les intérêts des Maliens. Et tant que les Maliens ne sont pas impliqués dans l'accord, il ne peut pas y avoir de bilan. L'accord a été signé pour une minorité dans leur communauté, pour satisfaire une minorité qui aujourd'hui a coupé le Mali en deux et contrôler les routes de trafic de drogue, d'organes humains.
Dans ce cas, est-ce que cet accord même peut être mis en œuvre au Mali?
Non, les Maliens ne sont pas d'accord avec l'accord. L'accord a été signé en violation de toutes les règles au Mali. Et en ce moment, personne ne se reconnaît dans cet accord, sauf Ibeka et ses alliés qui veulent quand même faire éclater le Mali en plusieurs morceaux. Aucune alternative. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'accord d'Alger est une porte de sortie pour le Mali. Il est temps qu'on revienne aux Maliens pour un accord. Et cet accord doit aujourd'hui être débattu dans un dialogue national. Pour tous les fils du Mali s'y retrouvent pour qu'on parle de notre pays.
D'accord. Boubacar, pensez-vous que cet accord est applicable?
Bon, l'accord est applicable, moi je dirais non, parce que cet accord est caduque. L'accord est périmé. Périmé parce qu'au moment où on signait l'accord, il n'y avait pas, par exemple, la situation du nord, mais du
centre.
Du centre. Et si l'accord vise la paix et la réconciliation au Mali, je crois que le centre fait partie du Mali. Et maintenant, l'accord doit intégrer le centre. Donc maintenant, moi, au lieu d'appliquer l'accord en l'état, il faut actualiser cet accord-là. Juste pour revenir à ce que mes deux confrères viennent de dire, la responsabilité de la France dans cette crise, elle est évidente. Elle est évidente. Mais moi, je vais au-delà. Qu'est-ce que nous, en tant que Maliens, nous avons fait pour éviter cette situation ou encore pour dénoncer cette situation? Je ne vois pas. Bon, nos autorités. Bon, parce que cette tentative, chaque fois, d'accuser la France, c'est vrai, la France a une grande part de responsabilité là-dedans. Cette tentative, chaque fois, d'accuser la France est également, c'est-à-dire qu'on blâme, c'est-à-dire que nos autorités, mais en fait, nos autorités qui vivent dans nos pays, qui ont en charge la gestion du pays, quelle est leur vision du Mali, qu'est-ce qu'ils veulent que notre Mali soit demain? Il faudrait que, c'est-à-dire, parce qu'en tout compte fait, c'est-à-dire la France, c'est la France vit ses intérêts, mais nous qui vivons ici, c'est-à-dire nos autorités, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un pays, et c'est-à-dire qu'ils ont promis, c'est-à-dire qu'ils ont tenu des promesses à des populations et qu'il faut choisir. Mais voilà. Donc,
d'accord, il nous reste moins de temps, une minute pour chacun.
Voilà,
quelle solution aujourd'hui?
Bon, la solution, c'est qu'il faut vraiment actualiser cet accord, c'est-à-dire que tous les acteurs, cette fois-ci réellement, que ce soit tous les acteurs, s'asseyent pour discuter de l'avenir du Mali.
D'accord, la renégociation, est-ce la solution? Réviser l'accord.
En tout cas, cet accord ne fera pas le bonheur du peuple malien.
Et que faut-il faire?
Il faut qu'on s'y retrouve. Le Mali a beaucoup de problèmes, que les Maliens s'y retrouvent pour discuter de leurs problèmes et faire avancer le pays.
D'accord. Quelle solution proposez-vous?
La solution, c'est la mobilisation générale. Que les Maliens se mobilisent pour parler du Mali aux Maliens. Et les interlocuteurs des autres pays-là. Vous savez, il y a trois ministres. MINUSCO au Congo, MINUSMA au Mali, MINUSCA en Centrafrique. Tout cela vise un objectif, c'est dépouiller les peuples africains de leurs ressources. Voilà. Donc il faut que les peuples africains et maliens en particulier se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Voilà.
Merci Amadou Diallo, journaliste indépendant, Yoroso de l'Inter de Bamako et Boubacar Païtao du journal Aujourd'hui. C'était les invités du Forum de la presse de ce soir et à la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un prochain Forum de la presse de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Odewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.